Lettres de Marie Curie et ses filles, 1923-1924. Marie à Ève, de Paris à l'Arquest. 5 juillet 1923. Chère Evette, je suis contente d'avoir de tes nouvelles et de savoir que tu travailles et que tu es contente de ta volontaire solitude. Mais je suis contrariée que la citerne soit abîmée. Il faudrait la réparer. Ne pourrait-on commencer les pourparlers avec Madame Evenoux au sujet de la maison? Car il est à craindre que, voulant vendre, elle ne se soucie pas de réparer la citerne. Nous avons de fortes chaleurs maintenant, toi aussi je pense. Les bains doivent être bons. Je n'ai rien décidé en ce qui me concerne. Je te dirai dans quelques jours où j'en suis et ce que je pense pouvoir faire. Je suis opprimée par les isotopes et voudrais en sortir. Je prépare aussi une expérience d'été pour le temps de mon absence. Le chat n'a fait aucune attention à ta lettre, mais il a daigné dormir sur ton lit depuis que le jeune Duane qui habitait dans ta chambre est parti. Alice est très aimable. Elle fait des compotes de cerises et s'entend bien avec Irène. Douce chérie, je t'aime bien et serai heureuse de te revoir car tu me manques beaucoup. Mais j'aime te savoir au grand air par ce beau temps chaud et penser que tu fais provision de santé. Ma robe de dentelle semble assez jolie. Elle sera finie demain et j'aurai peut-être l'occasion de la mettre dimanche pour déjeuner au cercle du Tour du Monde à Boulogne. Je t'embrasse. Ève à Marie, de Paris à Bonporto, septembre 1923. Mardi matin. Cher May, j'espère que tu es bien arrivée et que vous n'avez pas eu cette nuit l'orage qui a régné ici. Tout va bien. Nous avons depuis hier un petit compagnon à quatre pattes que j'ai été extraire avec André d'une des boutiques des quais. Imagine une immense queue, toujours raide dans l'air, une paire d'oreilles très grandes, qui surmonte comiquement un petit museau éveillé et deux yeux dorés brillants, et entre cette queue et ses oreilles, un tout petit corps de chat, de petit chat pas bien gras, mais conscient de son importance. J'oublie de dire qu'il est tout noir, que malgré ses grandes oreilles, c'est un simple chat de gouttière, et que les miaulements qu'il peut proférer dépassent en intensité tout ce qu'on peut imaginer. En voilà un qui s'est miaulé, je t'assure, et avec des modulations admirables. Nous l'avons ramené en taxi, puis monté dans mes bras à la maison. Alice était enchantée. On l'a posé par terre et on lui a offert du lait. Il n'est pas le moins du monde timide et il est tout de suite parti d'un trot affairé visiter l'appartement. Il l'a fait méthodiquement, n'oubliant pas une pièce et ne repassant pas deux fois dans la même. Dans chaque pièce, il faisait d'abord une ronde générale puis grimpait sur une table et contemplait l'univers. C'était, je pense, assez comique, ce tout petit chat se baladant avec sa longue queue en mat de cocagne, les oreilles dressées, et André, Alice et moi le suivant respectueusement en nous tordant de rire. Il a accepté du lait, du pain et des nouilles, et tout le reste de l'après-midi, il a joué comme un diable. C'est un fantasque petit diablotin, très tendre à 16 heures et d'une confiance illimité dans l'humanité et aussi dans tous les objets, quels qu'ils soient, qu'ils considèrent a priori comme solides et bons pour sauter dessus. D'où quelques chutes sans gravité, après lesquelles il recommençait ses exploits. Il jouait avec tout, grimpait dans des endroits invraisemblables et ne prenait peur que quand il se croyait perdu. Alors, de la cuisine, nous entendions un miaulement éperdu et vigoureux. Je l'appelais, et il revenait au galop vers nous. Il a tout de suite pris de bonnes habitudes propres. Il mange comme quatre et exige de la nourriture d'une manière impérative en sautant sur un meuble voisin de la table et, d'un bond de là, en atterrissant directement dans mon assiette. Il ronronne, mordille, lèche, adore être caressé et joue avec tout. On lui a dressé un petit lit à la cuisine. Mais cette nuit, Alice a dû l'accueillir dans son lit car il avait peur de l'orage et ne pouvait dormir qu'en compagnie. Ce matin, Il a lapé du lait chaud, puis est venu sauter sur mes genoux pour ronronner avec passion, me mordir un peu. Il a une langue démesurée, elle aussi, pour son petit corps de chat. Tout à l'heure, pendant le début de ma lettre, il avait sauté sur la table et mordillé le bout de mon stylo, en lui donnant des coups de patte. Puis il est descendu sur mes genoux et s'y est endormi innocemment. Il dort, la tête au creux de mon bras. Il est léger comme une petite plume. Pour terminer, j'ajoute que nous l'avons solennellement baptisé. Je l'ai appelé Nick, et nous avons mangé des dragées en son honneur, Alice, Madame Raquin et moi. Nick dort toujours. Je t'embrasse bien fort. Ève. Marie à Ève, de Bonporto à Paris. Bonporto, le 22 septembre 1923. Chère Evette, j'ai reçu ta lettre consacrée au petit compagnon à quatre pattes et je suis contente que tu en aies trouvé un qui te plaise. Je pense qu'il nous plaira autant, à Irène et à moi. Ne le laisse pas aller sur le toit, tout au moins dans son jeune âge, et donne-lui une nourriture conforme à ses besoins actuels. J'aurais aimé avoir des nouvelles de Zina, mais puisque tu n'en parles pas, je suppose qu'il n'y a guère de changement dans son état. La date de notre retour a été avancée d'un jour. Nous partirons d'ici le 27 septembre, jeudi, et serons à Paris vendredi matin, 28 septembre. Cela convient mieux aux arrangements de Mademoiselle Clément. Le temps est beau, mais nous avons eu un peu de mistral, et l'eau a été refroidie. Nous n'avons pas eu de mer absolument calme. Nous espérons encore qu'elle le sera ces jours-ci. Nous avons pu nous baigner, avec plus ou moins de vagues, tous les jours. Je prends l'habitude de circuler sans lunettes, et j'ai fait des progrès. J'ai pris part à deux promenades, l'une de l'après-midi, l'autre d'une journée entière, avec l'usage des sentiers de montagne caouteux et peu commodes. Cela se passe assez bien, et je puis marcher assez vite sans accident. Ce qui me gêne le plus est la vision double, c'est elle qui m'empêche de reconnaître les personnes qui s'approchent. Chaque jour, je fais des exercices de lecture et d'écriture. Jusqu'à présent, ce côté est plus difficile que la marche. En particulier, je ne puis guère travailler le soir, et j'aurai certainement besoin de ton aide pour la rédaction de l'article pour l'Encyclopédie britannique. Je n'ai pu commencer cette élucubration, car je m'occupe de corriger les épreuves du livre sur les isotopes et de faire de l'allemand avec Irène. Je t'embrasse tendrement, ma chérie. À bientôt. Mais. P.S. Mes amitiés à Alice. Marie à Ève, de Cavalère à Paris. Cavalère, vendredi 14 mars 1924. Chère Evette, hier j'ai écrit à Irène, et le soir je suis allée à la poste, et je suis riche de deux lettres, une de toi de lundi, une d'Irène de mercredi. J'ai été très contente d'apprendre que rien ne va mal au labo, et que tu travailles bien. Je serais vraiment très contente si Corto t'acceptait comme élève, car cela te donnerait certainement beaucoup de courage et faciliterait tes projets d'avenir. Ici, le temps, toujours beau, est cependant moins parfait. Depuis hier, il y a du vent qui souffle entre les mondes. Demande à Irène ce que cela veut dire. En se promenant dans les collines boisées, on est cependant assez tranquille. Le soir, il a fait hier un clair de lune très satisfaisant, et j'ai pu me promener sur la route que je voyais parfaitement bien. Cela m'a fait plaisir. Et certainement, je pourrais en faire autant ce soir. De plus, ayant pris mon courage à deux mains, j'ai demandé aux gens de l'hôtel de me faire dîner avant les pensionnaires de l'hôtel, en même temps que quelques personnes de passage. J'ai ainsi évité les rencontres assommantes avec les gens qui me dévisagent avec bienveillance et curiosité. Désormais, je ne rencontrerai plus guère que le personnel et les voyageurs qui n'habitent pas l'hôtel. Cela a aussi l'avantage que la salle à manger est à ce moment beaucoup plus libre et plus tranquille, et on est servi beaucoup plus rapidement. Les mimosas commencent à passer, mais hier, en me promenant, j'ai vu quelques champs de fleurs cultivées, giroflées principalement. C'était joli, et cela sentait bon à grande distance. Je n'ai pas encore de réponse de Toulon au sujet de la place dans le train. J'espère l'avoir aujourd'hui. Je ne puis guère retarder beaucoup mon départ, car ensuite ce serait difficile à Paris d'arranger les choses. D'ailleurs, 2 semaines, c'est très appréciable, et j'ai envie de vous revoir. Bon succès à ton concert de demain. Et à bientôt. Mais... Marie à Ève, de Bruxelles à Paris. Bruxelles, le 25 avril 1924. Chère Yvette, je suis arrivée ici sans difficulté, par un excellent train qui est direct jusqu'à Bruxelles, avec 4h moins 15 minutes de trajet. J'habite à la Fondation et je me rends compte que je ne pourrais habiter ailleurs sans blesser les organisateurs du congrès. D'ailleurs, j'y suis bien, malgré quelques petits inconvénients qui résultent de ce que le service n'y est pas complet. En revanche, c'est plus intime qu'à l'hôtel, et les chambres sont très bien arrangées, avec salle de bain très confortable. Irène est arrivée le même soir que moi, après une excursion bien réussie aux grottes de Blanc. Elle habite dans une chambre voisine et a passé la journée d'hier à Gand et Bruges. Il fait beau et assez chaud. Nous avons travaillé hier et nous avons eu le soir une réunion dans la maison même où j'habite. Monsieur Lorenz est ici avec sa femme. Aussi bien eux que Monsieur Rutherford ont demandé gentiment de tes nouvelles. Samedi, il y aura une courte visite chez le roi. Dimanche, nous pourrons nous promener. Le congrès Solvay finit mardi, et jeudi commence la commission de la Société des Nations. Irène reviendra sans doute dimanche soir ou lundi matin. Quant à moi, ce sera sans doute lundi 5 mai. J'espère avoir d'ici là de tes nouvelles. Je t'embrasse, chérie. Mais... Irène à Marie, 1924. Val d'Isère, 5 juillet. Mes chéris, nous voici à Val d'Isère. Jour de repos, de lavage, de reprisage, de cartes postales, etc. L'excursion se passe fort bien. Le poids de mes souliers n'est absolument pas gênant et je commence à apprendre à me servir de mon piolet. J'ai eu l'occasion de faire déjà un peu de rocher et beaucoup de marches sur la neige, et je constate qu'un instinct pervers commence toujours par vous faire faire le contraire des mouvements qu'il faut pour ne pas glisser. Le fait d'être cordé donne cependant pas mal d'assurance, et la vue des précipices me fait assurément de moins en moins d'impression. Il est absolument essentiel d'avoir des chaussures bien étanches, avec soufflet, car c'est la chose la plus habituelle qui soit de barboter dans la neige à moitié fondue ou de traverser les torrents quand ils sont peu profonds. Hier, journée magnifique, très longue course, plus de 12 heures de marche, pour aller à Val d'Isère en montant sur la Grande Motte. Toute l'ascension était dans la neige avec grand soleil. Mes lunettes m'ont parfaitement épargné toute fatigue des yeux et je n'ai pas eu de coup de soleil grâce à la pommade véritablement efficace dont je suis munie. Mon chapeau à large bord est très utile aussi. Nous sommes 6 touristes, plus un guide et un porteur. Nous formons 2 cordées. Je fais partie de celle qui est conduite par le porteur. Nous avons vu des panoramas magnifiques. On en jouit beaucoup, en particulier pendant les longues et faciles descentes sur la neige. Je t'embrasse, Irène. Irène à Marie, de Paris à Genève. Paris, mardi 22 juillet 1924. Mes chéris, je suis assez contente parce que ma déviation magnétique donne, après tout, une assez belle précision, bien supérieure à celle de Geiger dont j'ai retrouvé le mémoire. Je n'ai pas le temps de publier cela maintenant, mais je rédigerai pendant les vacances. J'espère que tu n'es pas trop fatiguée et que tu as beau temps. Je suis allée 2 fois à la piscine en Seine pour faire du crawl. L'eau est très bonne. Alice et Albertine partent aujourd'hui. Je t'embrasse bien. Irène. Marie à Irène, de Genève à Paris. Genève, mercredi 23 juillet 1924. Chère Irène, je viens de recevoir ta carte d'hier et je suis enchantée que tu sois satisfaite de la déviation magnétique. Tu ne me dis pas si tu as vu le petit sous-groupe. Je suppose que non. Donne-moi la précision que tu as obtenue et envoie-moi ici, si tu en as de disponible, un tirage à part de ton article sur la distribution des rayons alpha, journal de physique, pour M. Einstein. Si tu l'expédies de suite par Mme Razet, il arrivera certainement à temps. Nous avons mauvais temps maintenant, mais fort heureusement, Ève ne s'ennuie pas. Elle semble très contente de beaucoup voir M. Einstein, qui est très gentil avec elle. Je crois cependant qu'elle partira d'ici samedi soir au plus tard pour rentrer à Paris. Elle n'a eu aucune nouvelle de Mademoiselle Chapuis, et d'ailleurs, depuis qu'il pleut la plus grande partie de la journée, elle n'a plus envie de monter dans la montagne où habite cette personne. Tu as une vraie chance d'avoir eu ton excursion tant qu'il faisait beau dans la région. Monsieur Langevin partira probablement demain soir, mais Monsieur Einstein restera jusqu'à la fin de la session. Je t'embrasse tendrement. Comment se comporte le polonium sur nickel? Mais. Alice et Albertine sont parties, je présume.